8h28, bon lundi matin, bon début de semaine. Merci de commencer cette dernière semaine du mois de mai avec l'équipe de Rage Against le matin. Max, hier, Donald Trump s'est lâché lousse sur son Truth Social et a, entre autres, déclaré que Vladimir Poutine était devenu complètement fou.
Ouais, mentionné qu'il avait toujours eu de très bonnes relations avec Vladimir Poutine, mais que là, il est arrivé quelque chose. Il s'était passé de quoi ça allait avec Vladimir Poutine, parce que là, il était comme passé de bonnes relations à Vladimir Poutine est devenu complètement fou. Au passage, il a aussi critiqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky en disant qu'il n'aime pas ça, qu'à chaque fois qu'il ouvre la bouche, il cause des problèmes puis il prévient que ça doit arrêter. Il n'a pas manqué non plus de dire que cette guerre-là serait jamais arrivée entre la Russie et l'Ukraine, si c'est lui qui avait été président dans ce temps-là. Il écrit que c'est la guerre de Zelensky, Poutine et Biden, pas la sienne.
Jason Donald Trump avec Luc Laliberté, qui est spécialiste en histoire des États-Unis. Et justement, au bout du fil, il est aussi, vous le savez, chroniqueur au Journal de Québec. Luc, bon matin.
Oui, bon matin.
Merci d'être là. Toujours un plaisir, cher ami.
Ah, plaisir partagé.
Hey, Luc, qu'est-ce qui se passe avec Donald Trump? Est-ce qu'il est enfin en train de réaliser ce que la majorité de la planète pense de Vladimir Poutine, donc qui est devenu complètement fou?
Je devrais pas rire, en fait, parce que c'est dramatique sur le fond. Il y a effectivement un conflit en Ukraine provoqué par Vladimir Poutine. Ça avait commencé avec la Crimée il y a des années. Mais oui, Donald Trump semble être enfin arrivé sur la même page que nous, à partir du même genre d'informations que nous. Ce qui est à la fois intéressant et triste, c'est qu'il nous la joue à la Donald Trump 100% encore une fois. Ce qu'il reproche, entre autres, à Zelensky, puis le président Zelensky, on peut comprendre qu'il se cherche, qu'il cherche à valider la solidité des alliances. Zelensky a simplement laissé entendre que, ben écoutez, c'est pas parce que vous partez en congé ou qu'il y a des journées de congé que nous, la guerre va arrêter. Et on a été frappés très, très durement là, depuis deux jours. Donc, c'est ça comme sortie, ce que reproche Donald Trump à Volodymyr Zelensky. Donc, voilà pour le côté Zelensky. Je vois pas où on a là-dedans une responsabilité du côté de Joe Biden, si ce n'est que, comme la plupart des alliés, européens, entre autres, les États-Unis sont venus appuyer le régime ukrainien. On le fait du côté du président Biden pour deux grandes raisons. Un, ça sert les intérêts américains d'appuyer l'Ukraine. On a parlé beaucoup des milliards de dollars qui sont concentrés vers l'Ukraine et vers cette région-là. Ce sont des sommes que les Américains auraient investies ailleurs pour assurer une forme de stabilité dans leurs relations diplomatiques ou encore dans les mises en garde qu'on sert à la Russie. Parce que nous, on regarde l'Ukraine. Le président Biden, puis la plupart des politiciens américains, ce qu'ils regardent, c'est l'ensemble de la région, incluant la zone Asie, où il y a le grand rival des États-Unis maintenant, qui est la Chine. Donc, on envoyait un message aussi à quel point les Américains étaient forts ou étaient prêts à intervenir. Donc, c'était une mise en garde à la Chine pour dire, ben écoutez, si vous êtes tenté par Taïwan ou si vous êtes tenté par une forme d'expansion qui est même militaire dans la zone asiatique, ben les Américains sont là. Donc, ça servait les intérêts américains. Et de l'autre, ben écoute, on défendait un pays qui a choisi son dirigeant de manière démocratique, qui de plus en plus se tourne pour des raisons économiques, des raisons diplomatiques vers l'Europe. Quand la Russie fait ça, c'est la deuxième fois qu'elle viole l'espace totalement indépendant, donc, de l'Ukraine. Alors, le président y va essentiellement pour deux grands motifs. Maintenant, Donald Trump nous avait dit, on savait que ça se pouvait pas, mais ses formules à lui. Moi, j'aurais réglé ça dans la première journée de mon mandat, de mon second mandat. On se disait, ça va être plus long que ça, si jamais il y parvient. Mais là, je pense que Donald Trump doit dire quelque chose parce que Vladimir Poutine ne réagit pas du tout à ce qu'il a fait depuis qu'il est revenu en poste. Donc, quand Vladimir Poutine répond, ce sont des demi-formules, on le fait à demi-mot, ou encore on ne répond pas. Et là, ben, ce qu'on constate, c'est qu'ils se sont parlé en passant la semaine dernière. Monsieur Trump avait dit, moi, j'ai exercé des pressions pour qu'on négocie un cessez-le-feu. On vient de voir à quel point Donald Trump est important dans l'équation. On a frappé les villes ukrainiennes comme on l'avait pas fait depuis le début du conflit, ou à peu près pas. Donc, Donald Trump est un peu peinturé dans le coin parce qu'il n'ose pas jusqu'à maintenant défier vraiment Vladimir Poutine. autrement que par des mots. La seule question qui reste après qu'il l'ait traité de fou, c'est est-ce que le président non seulement vient de confirmer ce que nous on voyait ou ce qu'on disait, donc est-ce que le président qui a confirmé ça est prêt à passer à l'étape suivante, c'est-à-dire ben soit sanctionner plus la Russie ou y aller encore plus fort du côté de l'Ukraine ou travailler à l'unisson avec les pays européens ou l'OTAN qui sont prêts à envoyer des munitions, qui sont prêts à envoyer de l'argent. Je pense que c'est la question qui est en suspens maintenant.
Ah oui, on dirait quasiment que c'est Donald Trump qui dit « Hey, t'écoutes, Vladimir Poutine, t'écoutes presque pas, presque rien de ce que je te dis. Est-ce que t'as compris que cette déclaration-là, que t'es devenu complètement fou? » Donc, on va voir la réaction de Vladimir Poutine. Pendant ce temps, Donald Trump, Luc, a livré un long discours enflammé aux nouveaux officiers diplômés là, dans les forces armées américaines. Ouais. Il s'est lancé des fleurs. Il a lancé des flèches aussi à certains anciens présidents. T'as pensé quoi de ce discours-là aux nouveaux officiers?
Ah, écoute, c'est la réaction, parce qu'on pourrait tirer un nombre d'exemples assez étonnants d'un président qui disait à peu près n'importe quoi. Entre autres, tiens, un exemple, il a dit « Avant que je revienne dans mes fonctions, avant que je redevienne président, on n'arrivait pas à recruter dans l'armée. Mmh. » Et tous les gens à qui il s'adresse sont entrés dans l'armée sous Joe Biden, sous la présidence de Joe Biden.
Ça, c'est clair. Donc, hein,
ben écoute, c'est un exemple parmi d'autres. Maintenant, moi, dans un monde, en guillemets, normal, on a beaucoup critiqué encore récemment Joe Biden. Puis il y a ce livre qui est sorti là, qui parlait d'une dissimulation de son état de santé ou d'un cover-up. Donc, on a dit, il perd ça physiquement, on voyait qu'il en perdait, mais on a dit, on a même caché, supposément, des facultés cognitives qui déclinaient. M. Trump devrait avoir droit au même traitement. C'était décousu hier, c'était n'importe quoi, c'était gênant. Si Joe Biden pouvait être confus à la fin, quand il a fait, lui, ce même discours au cadet de West Point, il avait pris la peine, je pense que c'est une heure à la fin de son intervention, il s'était assuré d'aller serrer la main de tout le monde. Il avait reconnu la valeur du travail des militaires. Monsieur Trump, hier, ben, il nous a ordonné, outre la phrase totalement mensongère à laquelle je référais tout à l'heure, il s'est lancé des fleurs. Il a partagé ses problèmes d'élection, puis de critiques, de médias. Si jamais il y en a qui l'ont pas vu, c'est sur YouTube dans son intégralité. Donc, ça vous coûte rien, pas besoin d'abonnement sur une chaîne. J'étais décontenancé. J'ai écouté chaque minute de ce discours-là et je me disais, est-ce qu'il se souvient qui il est? C'est le commandant en chef de l'armée. Et est-ce qu'il se souvient qui est devant lui? Pourquoi fait-il ça? Moi, il y a une chose qui m'inquiète particulièrement avec l'armée américaine depuis le retour de Donald Trump, mais c'était une inquiétude que j'avais avant sous Joe Biden. L'armée américaine, le problème principal qu'on avait, qui était documenté, c'était la montée de l'extrême droite au sein de l'armée américaine. Il y a des recruteurs qui disaient « on n'arrive plus à détecter tous nos soldats donc qui sont du côté de l'extrême droite ». Et au sommet maintenant du Pentagone ou de l'armée, donc on a Pete Hegseth, qui depuis des semaines maintenant congédie des généraux et les remplace par des gens qui vont lui être fidèles. Ça peut être normal qu'au sommet de la hiérarchie, on ait des généraux avec lesquels on partage une certaine vision du rôle de l'armée, mais là, il y a plus que ça. On ne fait jamais ça de cette façon-là, pas à cette échelle-là. Et Pete Hegseth, faut-il le rappeler, une des choses qui inquiétait quand il a été nommé, c'est ses accointances avec les suprémacistes blancs. Donc, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, puis des choses qu'on ne devrait pas prendre à la légère. Ce que le président a dit hier, c'est décousu, c'est illogique, c'est pas respectueux de ce que sont les militaires. Mais pendant ce temps-là, au sein de l'armée, on est en train d'effectuer un ménage qu'on devrait aussi avoir à l'œil.
Luc, pas le choix de parler d'un des dossiers de l'heure dans l'actualité. Oui, aux États-Unis, mais on en parle, j'ai l'impression, beaucoup à l'international, ce bras de fer entre Donald Trump et l'université Harvard, où là, Trump a annoncé une décision là, d'interdire l'inscription d'étudiants étrangers, mesure qui a été suspendue en passant par un juge. Ouais. Mais là, Trump persiste et signe. Il semble déterminé à gagner cette guerre-là contre Harvard après avoir coupé 2 milliards en subventions. Pourquoi il s'entête autant à taper sa tête d'un des... Tu sais, Harvard, c'est un des symboles, j'ai l'impression, des États-Unis.
On a vraiment une forme d'anti-intellectualisme aux États-Unis sous Donald Trump. Il en a contre les grandes universités, il leur a coupé des budgets. Ce qu'il veut, c'est que les universités, finalement, se plient à sa volonté dans leur politique d'admission, dans leur programme. Rappelons aussi qu'il s'en prend même au département de l'éducation au complet. Là, il y a des universités privées comme Harvard, mais il s'en prend aussi à l'éducation. Quand on parle de dérive autoritaire, c'est de ça dont on parle. Donc, c'est comment on peut vendre, dans certains cas, même de la propagande plutôt que de vendre le savoir. Et moi, je trouve ça terrible pour les grandes universités parce que Harvard, on s'y trompera pas, Harvard va réagir. C'est l'université la plus riche et de loin aux États-Unis. Elle a les moyens d'attendre le passage de Donald Trump ou elle a le moyen de le traîner devant les tribunaux, ce qu'on a fait. T'as évoqué le fait qu'un juge a suspendu la décision d'administration Trump. Donc, Harvard va résister, mais combien d'autres universités vont résister, sont capables d'offrir autant de munitions au plan financier ou au plan économique? Et c'est toute l'image des États-Unis, le prestige américain sur la scène internationale. Harvard, là, c'est, écoute, j'ai pas le décompte total, mais on a au-dessus de 120 prix Nobel qui sont issus de l'université Harvard. Donc, c'est un pôle d'attraction pour des chercheurs, les universités américaines. Harvard, probablement, dans les deux ou trois premiers, là, en termes d'admission d'étudiants étrangers. Et l'autre chose, c'est, parce qu'on en a peu parlé, je trouve, dans les médias, que va-t-on faire avec ces étudiants étrangers dont le visa risque de venir à échéance?
Oui.
Donc, ces étudiants-là se voient offrir la possibilité de passer de Harvard à une autre université. Mais considérant la situation globale, le bras de fer entre Donald Trump et plusieurs grandes universités, on fait quoi si on est un étudiant étranger à l'université Harvard présentement? Il y a un cas qui a été documenté parce qu'on parle de royauté, mais il y a la reine héritière de Belgique qui étudie présentement, Élisabeth de Belgique, qui étudie présentement à Harvard. On fait quoi si on est Élisabeth de Belgique ce matin? Puis ça, c'est un cas célèbre, c'est un cas qui est un peu plus documenté. Si le visa vient à échéance, on va faire quoi avec les gens qui sont aux États-Unis? Donc, c'est vraiment un œil au beurre noir pour la réputation des États-Unis comme pôle de développement, du savoir, donc puis comme aimant pour beaucoup d'intellectuels à travers la planète.
Hey Luc, en terminant, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire que l'État de l'Oklahoma, évidemment aux États-Unis, va inclure dans son programme scolaire les allégations de prétendues irrégularités de vote lors de l'élection de 2020?
Écoute, ça, c'est le prof en moi qu'on vient chercher quand on fait ça. C'est sûr qu'il y a celui qui s'intéresse à la politique et à l'histoire américaine depuis très, très longtemps. Je ferai juste un parallèle. Je sais pas si vous vous souvenez, sous le gouvernement de Mme Marois, ça commence à faire quelques années, Mme Marois avait dit avec Pierre Duchesne, qui était son ministre à l'époque, on va imposer un cours d'histoire du Québec dans les cégeps. Et là, il y avait eu une levée de bouclier de gens qui disaient, c'est ça, les profs d'histoire vont faire des séparatistes avec nos étudiants. Et j'avais été un des premiers à me manifester pour dire, non, il y a personne qui va venir brimer ma liberté d'expression, ma liberté académique, et on enseigne l'histoire, on n'enseigne pas la propagande.
Ouais.
On n'enseigne pas une organisation de faits pour orienter le vote des étudiants par la suite. Ben là, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, c'est le superintendant de l'éducation en Oklahoma qui a dit, dans le programme scolaire maintenant, les profs doivent obligatoirement traiter les irrégularités de l'élection 2020. J'aurais une question pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous vous souvenez d'une irrégularité en 2020? Si vous répondez « Non, Luc, je suis pas capable », vous avez la bonne réponse. Donc, il n'y en avait pas d'irrégularité. C'était une des élections les plus propres. Quand on regarde, il y a toujours des petites erreurs de 0,01% qui se produisent, mais c'était une des élections les plus propres ou « clean », tiens, en très mauvais français ce matin. Donc, c'est littéralement, quand je parlais de propagande tout à l'heure, vous aurez deviné que le superintendant en Oklahoma est un très, très grand partisan de Donald Trump, ce qu'on appelle un MAGA, un Make America Great Again.
Ouais.
Et là, on plante dans la tête des enfants de la désinformation.
Luc Laliberté, qui est chroniqueur au Journal de Québec et à qui on jase régulièrement, c'est toujours très apprécié. Luc, merci beaucoup pour ton temps ce matin, cher ami.
Écoutez, une bonne semaine à tous vos auditeurs, une bonne semaine à vous.
Merci beaucoup. Salut. Luc, à bientôt.
Bye.
Bye. Toujours très, très, très intéressant de jaser politique et d'histoire aussi. Puis là, on venait le chercher avec une corde sensible. Là, il y avait aussi un genre de petit lien entre certains des sujets ou les questions qu'on posait, les différents sujets d'actualité là, qui étaient Trump et... le scolaire, si on veut, ou l'école.
D'après moi, Harvard, on a vraiment, mais vraiment pas fini d'en entendre parler. Puis juste avec Luc, on aurait pu juste parler de Harvard. Là, il y avait d'autres sujets intéressants, à commencer par justement la dérive de Trump sur Truth Social, de partir sur le Poutine est un fou, puis Zelensky s'ouvre la trappe puis il fait du mal, puis là ça à faute à Biden, la guerre Russie-Ukraine, on n'avait pas le choix d'aborder ça avec Luc la Liberté, mais c'est ça, d'après moi Harvard, on va en reparler pas mal.
Absolument. Courte pause à Rage Against le matin, et au retour, c'est le temps de vous gâter, j'ai une paire de billets pour vous pour le spectacle de Three Days Grace et Volbeat au Centre Vidéotron le 17 juin prochain.